Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Voilà, ce soir nous allons avancer un peu plus dans l'enseignement de ce service de délivrance. Et je voudrais que nous puissions ce soir regarder ensemble les 7 clés essentielles pour ceux et celles qui exercent le service de la délivrance. 7 clés. Un trousseau qui comprendrait 7 clés. Et chacune des clés est importante pour que nous puissions exercer, selon la volonté de Dieu, la libération de nos frères et sœurs, d'hommes et de femmes qui sont prisonniers. La première clé, et ça serait la vérité de la palisse de la nommer en premier, puisque sans elle, nous ne pouvons rien faire. Je veux parler de la foi. Première clé, la foi. C'est presque une vérité de la palisse que de la désigner comme clé numéro un d'un trousseau qui en comporterait 7. Je ne sais pas si nous verrons les 7 clés ce soir, mais on va avancer, on va voir clé après clé. Ce qu'il faut nous rappeler en priorité, c'est que le pouvoir d'expulser les démons n'est pas présenté dans l'Écriture comme un charisme du Saint-Esprit, au même titre que les dons de guérison ou le don d'opérer des miracles. L'évangile de Marc l'annonce comme un signe qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut bien être clair. C'est un signe que Dieu donne. Et le signe que Dieu va donner, c'est la démonstration de son autorité, de sa puissance et de son règne éternel. Ce signe accompagneront ceux qui auront cru. Voyez-vous, la foi, elle est là à l'état primaire. C'est la foi. Vous vous rappelez, à un moment donné, le Seigneur Jésus va être confronté avec un enfant épileptique, lunatique. Et auparavant, les disciples vont essayer de chasser cet esprit-là. Et ils n'arrivaient pas. Et Jésus va leur dire, race d'incrédules, il va leur dire cela, race d'incrédules, combien de temps vais-je demeurer encore avec vous? Vous n'avez pas encore compris la chose. Il va les traiter d'incrédules. Pourquoi? Parce que on ne peut pas exercer ce service si la foi n'est pas dans notre cœur. La foi en ce que Jésus a fait, la foi en la démonstration de la puissance de Dieu, la foi qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'exercer nous-mêmes ce service. Donc, le pouvoir d'expulsion des démons n'est pas présenté dans l'Écriture comme un charisme du Saint-Esprit, tels les dons de guérison et d'opérer des miracles, mais l'évangile de Marc l'annonce comme un signe accompagnant ceux qui auront cru. Et cette simplification, ce signe, peut être très interrogatif. Pourquoi? Parce qu'on s'attendrait peut-être à ce que cela orne les services des ministères. Il n'y a que le pasteur qui peut délivrer, il n'y a que l'évangéliste qui pourrait délivrer, il n'y a que le docteur qui pourrait délivrer, il n'y a que le pasteur qui pourrait délivrer. Et c'est pas le cas. Il est dit, tous ceux qui auront cru. Donc c'est pas l'apanage ministériel, mais c'est l'apanage de tous ceux qui ont cru, qui marchent selon les 7 clés que nous allons vous présenter ce soir. Mais non, ceci tient à notre foi et non à quelque chose qui serait extérieur à ce que nous sommes en vérité devant Dieu. Il se pourrait donc que des enfants de Dieu, sans titre, sans apparente personnalité, voient ce signe accompagner leur foi et d'autres, et à s'interroger devant l'absence de signe. Donc peut-être qu'un simple croyant qui marche en vérité avec Dieu aurait cette capacité, n'est-ce pas, avec ses frères, ses sœurs, qui marcheraient dans la même direction que lui, de voir, n'est-ce pas, les démons être chassés. Et peut-être un pasteur qui viendrait là, qui ne pourrait chasser rien du tout parce qu'il manquerait quelque chose à sa vie. Donc nous comprenons bien que ce n'est pas l'apanage de ministères, mais c'est l'apanage de tous ceux qui auront cru et dans cette foi auront rassemblé dans leur vie ces sept clés. Ces sept clés. Avoir la foi, c'est avoir une communion personnelle avec le Christ de l'Évangile et avec son Église. Je dis bien, avoir la foi, je le répète parce que c'est tellement important, parce que beaucoup séparent le Christ de son Église. Avoir la foi, c'est avoir une communion personnelle avec le Christ de l'Évangile et avec son Église. L'Église est indissociable du Seigneur. Pourquoi ? Parce que l'Église et le Seigneur font un. Christ et son Église font un. Tout est ramené à l'unité de Dieu. Dieu est Echad, un. Père, Fils, Saint-Esprit. Christ et l'Église sont un. Quand Jésus a vu l'Église naître de son côté percé, quand le sang et l'eau ont coulé à la croix, à Golgotha, Jésus a dit, il a dû certainement dire, comme Adam, le premier Adam a dit, voici la chair de ma chair et les os de mes os. C'est pour ça que l'Église ne peut pas être sectarisée, coupée de son Seigneur. Et c'est pourquoi nous croyons, nous ne pouvons pas croire en Christ et ne pas croire à l'Église. Même si l'Église terrestre est imparfaite, parce qu'elle est faite au travers d'hommes, mais c'est pas nos imperfections qui doivent retenir l'attention, c'est l'œuvre que Dieu a faite en chacun d'entre nous. Sinon, aucun de nous ici servirait Dieu. Si nous devions être avec les sept étoiles nouvelles normes du royaume, aucun d'entre nous servirait Dieu. Ce que Dieu voit en chacun de nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Cette capacité qu'a le Saint-Esprit de nous transformer, de nous changer pour nous amener de plus en plus à l'image du Seigneur. Quand cette foi est véritable, elle est l'expression, avec ou sans parole, d'une expérience et du témoignage obligé qui l'accompagne. Premièrement, expérience de la mort à soi-même à laquelle elle nous conduit. Expérience de la mort à soi-même à laquelle elle nous conduit et dans laquelle nous maintient notre identification au Christ mort pour nos péchés. Voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je me suis identifié. Alors, notre identification, n'est-ce pas, on peut en parler brièvement. Soit nous prenons comme base le baptême et nous disons que tous ceux qui ont été baptisés, ils ont revêtu le Christ. Par le symbole du baptême, j'ai été immergé et je ressors en nouveauté de vie. Mais ça va bien plus loin que ça. Le baptême n'est qu'un pas dans le chemin de la foi qui est long. Notre identification en Christ, c'est la capacité que le Saint-Esprit nous donne de mourir chaque jour à nous-mêmes. Mourir dans nos paroles, mourir dans nos actions, mourir dans nos actes, mourir. En fait, ce que la chair, dans laquelle la chair dominait en nous, est en train de s'estomper par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et le grand paradoxe de l'Écriture, frères et sœurs, c'est plus je meurs et plus je vis. Deuxièmement, expérience d'une résurrection en vie nouvelle à laquelle elle nous conduit et dans laquelle nous croissons par notre identification au Christ ressuscité pour notre justification. Expérience d'une résurrection en nouvelle vie. La nouvelle vie en nous nous donne cette capacité de voir une personne comme étant ressuscitée. C'est-à-dire, je m'explique, j'étais comme ça avant, mais dans la nouvelle vie, cette vie nouvelle qui m'a été communiquée me fait ressusciter dans une nouvelle dimension de ma vie. C'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir mélange entre la chair et l'esprit. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la chair doit mourir. Qu'est-ce que ça veut dire faire mourir la chair ? Faire mourir la chair, c'est mourir à mes prétentions, mourir à ma connaissance, mourir à tout ce que l'humain a mis en moi et qui est ennemi de Dieu. C'est pour ça que nous ne pouvons pas espérer une vie nouvelle si notre connaissance, elle demeure limitée à l'humain. La vie nouvelle, elle est en nous parce que l'esprit de vie est venu en nous et nous a donné une autre façon de voir. Comme disait Yvette tout à l'heure, mes écailles sont tombées, maintenant je vois. Cette clé de la foi est donc la première en importance, puisqu'elle est la vie de Christ en nous, la seule qui ait triomphé de l'adversaire encore à l'œuvre sur la terre et dans le ciel, car ce n'est pas nous qui libérons, c'est Christ qui est libérateur. Nous sommes que ses serviteurs. Ce n'est pas moi qui libère, même si j'invoque le nom du Seigneur et que je suis dans les sept clés et que j'ai suivi le chemin que l'Esprit de Dieu m'a tracé, mais en réalité, c'est parce que je suis dans ce chemin-là et que je vis conformément à la volonté divine que Dieu va agir. C'est pas moi qui ai la capacité de libérer une personne. Ce n'est pas moi qui ai la capacité de délivrer des captifs et rendre libres les prisonniers. C'est le Christ qui est libérateur, et non pas l'homme, et non pas le ministère. Simplement ceux qui auront cru et qui marcheront dans le chemin que le Seigneur a tracé pour voir une armée se lever conforme à la volonté divine. Je rappelle, pour que ça soit bien saisi, la foi que le Seigneur nous a accordée. Et cette capacité que l'enfant de Dieu, ou les enfants de Dieu, parce que nous verrons plus tard qu'un enfant de Dieu n'agit pas seul. Il faut que tout se fasse sur la déposition de deux ou trois témoins. Quand il y a un service de libération, c'est pas une personne qui va libérer l'autre personne. C'est qu'il faut être deux ou trois témoins. Trois témoins, c'est bon. Parce que selon la grâce de Dieu, la richesse du Saint-Esprit, selon les dons que Dieu nous a investis, nous pouvons chacun de notre côté discerner les choses. Mais ça s'acquiert par une expérience. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il y a une complémentarité. Ça veut dire que je ne peux pas délivrer les gens seuls, mais je suis complémentaire de mon frère qui a tel discernement, de ma sœur qui a telle révélation. Voilà, nous sommes un ensemble, unis ensemble. Parce qu'on peut être ensemble sans être unis. Car ce n'est pas nous qui libérons, mais le Christ est le vrai libérateur. Nous ne sommes que ses serviteurs. En fait, la capacité que Dieu nous donne de chasser les démons coule directement de l'autorité, de la puissance et du pouvoir de Dieu. En moi, il n'y a aucun pouvoir. En toi, il n'y a aucun pouvoir. Si le Seigneur honore la libération d'une personne, c'est que le Seigneur est d'accord avec ce que nous faisons. Parce que s'il n'est pas d'accord avec ce que nous faisons, la personne ne sera pas libérée. Tant que nous ne sommes pas rentrés dans les conditions de Dieu, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'échecs et il y a eu beaucoup de dégâts dans ce service. Parce que beaucoup se sont emparés de ce service en disant, voilà, nous sommes maintenant des chasseurs des démons, nous allons libérer les gens. Et en réalité, au lieu de libérer les gens, il les détruisait. Deuxième clé qui vient s'ajouter à la foi, et ça coule de source une fois de plus, c'est le sang de Jésus. Se réclamer du sang de Jésus, c'est proclamer la seigneurie de Jésus sur notre vie. C'est mettre entre l'adversaire et nous une muraille infranchissable pour lui. C'est donc lui arracher des mains toute possibilité de garder en nous quoi que ce soit qui nous mettrait sous sa dépendance. Alléluia. Se réclamer du sang de Jésus, c'est proclamer la seigneurie de Jésus sur nous. C'est ton sang qui m'a lavé. C'est ton sang qui nous donne la vie. Il y avait un petit cantique comme ça à l'époque. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui nous donne la vie. Le sang de Jésus, une fois qu'il nous a purifiés, fait que s'installe en nous la seigneurie du Seigneur. Et c'est à toi de l'accepter. Et pour l'accepter, il faut que tu lui laisses de plus en plus de place. C'est-à-dire que tu descendes de ton trône du moi pour le laisser s'asseoir sur son trône à lui. Et c'est pas une mince affaire de foutre un coup de pied aux fesses au moi pour que Jésus s'installe sur notre trône. C'est un combat entre mon moi et la seigneurie de Jésus. Et c'est là où nous pouvons goûter à la grâce et la grande patience et à la miséricorde de Dieu, qui est si patient avec nous. Et le monde a vous vous rappelez, je vous ai fait rire une fois, mais je vais vous le redire. Il y a un fameux chanteur qui était Jacques Dutronc qui disait 50 millions de Chinois à l'époque, maintenant c'est des milliards, et moi, et moi, et moi. 900 millions, c'était. Bon, on n'est pas un milliard, après maintenant ils sont 2 ou 3 milliards. Et moi, et moi, et moi. Le moi, c'est comme l'hydre de Lerne. Vous connaissez l'histoire de l'hydre de Lerne? C'est une bête avec 7 têtes. Et chaque fois qu'on coupait une tête, la tête repoussait. Le moi, c'est pareil. Il est tenace. Et pour que s'installe la seigneurie de Christ en nous, il faut que la chair, qui est ennemie de Dieu, soit crucifiée. Elle a été faite par un acte d'amour du Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ à Golgotha. Ça, c'est Jésus qui l'a fait pour nous. Maintenant, reste à le vivre. Oh, que c'est difficile. Que c'est difficile. Tous ceux qui pratiquent le service de libération le savent bien. Invoquer devant les démoniaques la puissance du sang de Jésus, c'est les jeter dans la panique. C'est provoquer leur colère. Parfois même leur cri d'horreur. C'est les débusquer de leurs repères et les tenir à la merci de l'ordre d'expulsion qui va retentir. Tous ceux qui connaissent le service de la libération, tous ceux qui l'ont pratiqué, savent que le sang de Jésus, c'est quelque chose que les démons n'aiment pas. C'est par là qu'ils ont été vaincus. Le sang précieux de Jésus, plus précieux que l'or périssable, ou que l'argent, ou que les pierres précieuses, tout ce que vous voudrez, le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a la vie en lui-même. Et il l'a appliqué sur nos vies pour nous communiquer sa vie. Gardons enfin de faire de l'invocation au sang, je ne sais quelle formule magique qui, parce que prononcée, nous donnerait de fausses garanties. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, tu peux le rabâcher hein, toute la nuit si tu as envie. Hein. Si tu marches pas droit avec le Seigneur, tu vas t'épuiser. Là encore, les avertissements du Seigneur ne nous manquent pas. Regardez Matthieu 7, versets 21-23. Regardons l'évangile de Matthieu. Vous connaissez ce passage archi connu, que beaucoup se posent des questions sur ce passage. Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Peut-être vaut mieux dire « moins Seigneur » et faire la volonté de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur » à nouveau. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, dans le futur, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Alors, concernant le sang de Jésus, le pire aveuglement que nous pourrions avoir, frères et sœurs, et qui pourrait nous guetter, serait premièrement de nous limiter à l'invocation du nom du Seigneur là où en son nom nous avons à combattre. Ne nous limitons pas simplement à prononcer le nom du Seigneur, mais nous avons à combattre. C'est une implication. Je vous ai dit tout à l'heure que le chasser des démons n'est pas un don du Saint-Esprit, je le répète, au même type que les charismes de l'Esprit, mais c'est un signe qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un signe. Il faut que nous soyons bien clairs. De nous limiter à l'invocation du nom du Seigneur, là où en son nom, nous avons à combattre. Deuxièmement, de nous limiter à nous réclamer de la croix, là où nous aurions accepté la crucifixion de nos passions. Si j'ai pas crucifié ma chair avec ses passions, invoquer l'œuvre de la croix te sert à rien du tout. Elle est inefficace pour ta vie. Invoquer Golgotha alors que tes passions te dominent, ça serait insensé. Une telle prière, Dieu ne l'écouterait pas. À un moment donné, c'est, je crois, dans le prophète Jérémie, Dieu va dire à Jérémie, qu'il ne me prie plus, ce peuple. Je ne veux même pas écouter leurs prières. Pourquoi ? Parce que le peuple était devenu religieux, il était dans le conformisme, il était dans l'idolâtrie. Ses prières ne dépassaient pas le plafond. De nous limiter à nous réclamer de la croix, là où nous aurions à accepter, là où nous aurions à accepter la crucifixion de nos passions. Troisièmement, de nous limiter à l'invocation du sang du Christ, là où, à cause de son sang, nous aurions à confesser tel de nos péchés et lui permettre de nous guérir. Si tu invoques le sang de Jésus et que des péchés demeurent dans ta vie, à quoi que ça sert d'invoquer le sang de Jésus ? Confesse ton péché et laisse le sang de Jésus te purifier pour t'amener à considérer cette seconde clé. Le sang de Jésus, bien plus précieux que l'or périssable. Le sang pur et sans tache. Le sang de Jésus n'a aucune tare génétique comme notre sang. Si nous avons des maladies héréditaires, c'est parce que notre sang trimballe l'hérédité du péché en nous. Mais le sang de Jésus est sans péché. Il est pur, saint, sans tache. Alléluia. C'est pour ça qu'il peut te purifier parfaitement. Il te purifie pas avec du sang impur. Il te purifie avec du sang pur, pur, pur. Quelle bénédiction. De nous limiter à l'invocation du sang du Christ, là où, à cause de son sang, nous aurions à confesser tel de nos péchés et lui permettre de nous en guérir. Pratiquement, si tu veux aller pour aller libérer un frère ou une sœur, ne va pas avec un péché dans ta vie. Le diable sait, mais le Seigneur aussi. Et écoute-moi bien, fais attention parce que comme le diable sait les choses, tu peux avoir des retours de manivelle. Tu sais quand tu... Avant, les voitures, elles démarraient pas au starter. À l'époque, on avait une manivelle pour la lancer manuellement. Et comme il y avait beaucoup de compression, il fallait être costaud parce que des fois, la manivelle revenait en arrière et risquait de te déboîter l'épaule. Un, la foi. Deux, le sang de Jésus. Trois, la sainteté. La sainteté. Par l'Esprit, si Jésus a pu dire du prince de ce monde, il n'a en moi aucune prise, c'est qu'en Jésus, il n'y a aucune trace de ce qui nous caractérise et fait de nous les complices de Satan. Je répète, c'est très important cette phrase. Par l'Esprit, si Jésus a pu dire du prince de ce monde, il n'a en moi aucune prise, Jean 14, verset 30, c'est qu'en Jésus, il n'y a aucune trace de ce qui nous caractérise et fait de nous les complices de Satan. Oui, Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, moi je n'ai rien en lui. Il y avait rien en Jésus qui puisse donner accès au diable. Mais en nous, oui. À cause des choses que nous avons pratiquées, ou que des choses que nous avons héritées. À cause de ces choses-là, il est important que le Seigneur nous sache en état de pouvoir libérer nos frères et nos sœurs si nous marchons selon la volonté divine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie qu'il soit péché ou qu'il soit une advertance, un péché conscient ou inconscient, que nous devions et nous devrions confesser immédiatement. Je dis illico presto. Mais vous savez, frères et sœurs, et nous le savons, vous et moi, la chair a de bonnes raisons de continuer à se pavaner dans une apparence. Le moi orgueilleux et revendicateur est sans rapport avec sa pensée, ses sentiments ou son activité, alors que ce moi est la disposition fondamentale, la substance sans cesse active et prioritaire de la nature du diable. Je crois que le Seigneur, je le crois dans mon cœur, je le crois, ça je crois, que quand il y a un péché qui nous colle à la peau, et que nous puissions invoquer son nom, eh bien moi je crois que nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous, parce que nous ne marchons pas dans la lumière et dans la vérité. S'il y a dans ma vie quelque chose qui défaille, s'il y a un lien dans ma vie, quelque chose auquel je suis assujetti, je ne peux pas m'en passer ou m'en débarrasser, mieux vaut que je confesse cette chose et que le Christ me libère, que de continuer à invoquer le nom du Seigneur avec ce lien dans ma vie. Tous les vices des anges et des hommes déchus naissent et vivent de l'orgueil du moi. Qu'est-ce qui a fait que les anges ont été déchus? C'est qu'ils se sont élevés contre Dieu. Et Satan, le premier qui les a entraînés. Hein? Je me montrerai au-dessus, n'est-ce pas, de la montagne de Dieu. Je m'assiérai sur le trône. L'orgueil qui est dans le cœur de l'homme. L'orgueil du moi. L'orgueil du moi. Et attention, parce que la chair, elle peut se draper de fausse humilité. Elle est forte pour cela. D'autre part, toutes les vertus d'une vie selon l'Esprit Saint, sont les vertus de l'humilité. Alors, mesurons nos vies. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons compris de l'Évangile, vous et moi? Quel est le standard de Dieu que Dieu a fixé pour nous? Pouvons-nous vivre notre vie selon notre volonté, en mettant notre volonté à faire les choses que nous voulons et Dieu avec nous? C'est faux! Ça fait des années que je prêche ces choses et que j'enseigne ces choses. C'est faux, archi faux, nous nous trompons nous-mêmes. Un premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Puis ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais d'abord, le premier commandement, c'est avoir nos yeux fixés sur le Seigneur en priorité. Il faut débusquer les démons religieux, ceux qui se drapent de spiritualité et qui, en réalité, appartiennent à l'ennemi, parce que l'ennemi a des pouvoirs sur ces personnes. Et c'est pas ce que je dis de la parole de Dieu, c'est pas ce que je fais qui est l'agrément de Dieu. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est quand ma communion avec Dieu va déboucher avec mon Seigneur sur la pleine révélation que Dieu veut nous accorder. Et non pas basé sur ma connaissance ou ma compréhension des Écritures ou même mon intellectualisme humain, j'ai pu faire de hautes études. Mais c'est pas ça la foi. La foi, c'est quelqu'un qui sait pas lire et qui aime Dieu de tout son cœur. La foi, c'est quelqu'un qui sait pas écrire et qui aime Dieu de tout son cœur. C'est ça, la foi. C'est pas mes compétences personnelles qui font de moi un homme de foi ou une femme de foi. C'est ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Ce que Dieu a fait en moi. Gloire à son nom. Ce que Dieu est en train de continuer à faire en moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Et non pas ce que je suis, non pas ce que je parais. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu juste. C'est l'humilité elle seule qui creuse entre le ciel et l'enfer l'abîme infranchissable qui les sépare. L'enfer, c'est le moi orgueilleux. Le royaume de Dieu, c'est l'humilité. Apprenez de moi comme je suis doux et humble de cœur. Mon fils, ma fille, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur sont les sources de la vie. Un cœur humble, avec un esprit bien disposé. S'il y a des anges dans le ciel, c'est que leur humilité et leur vie même. S'il y a des démons dans l'enfer, c'est que qu'un les dévore et que ce feu est le feu de l'orgueil. Il y a une lutte pour la vie éternelle. Il y a une lutte pour la vie éternelle. Il y a une lutte pour la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. C'est déjà acquis dans le Seigneur. Mais maintenant, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. La part du Christ a été faite. Il veut que nous entrerions dedans de plein pied. Mais par le Saint-Esprit, il va nous y amener. Ne mettons pas de barrière. Ne mettons pas de barrière dans ce que Dieu veut faire. Les deux puissances maîtresses, les deux royaumes qui se disputent la possession éternelle de l'homme, ce sont l'humilité et l'orgueil. Que dit Pierre ? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est le chemin de l'abnégation. L'humilité, c'est la disparition du moi. L'humilité, c'est une façon de vivre. Mais tu ne peux pas créer ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui les crée en toi. Sinon, c'est fausse humilité et c'est orgueil. C'est aussi pourquoi l'ordre est là. C'est une exigence de sainteté. C'est une exigence de sainteté. L'ordre est là. Quel est cet ordre que Dieu nous a donné par l'apôtre Paul? Quel est l'ordre auquel Dieu nous a soumis? Alors cet ordre est le suivant. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Comment? En vous entretenant par des psaumes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, par des enseignements, par l'étude de la parole, par toutes les bonnes choses que Dieu a mis à notre disposition. Et je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur parce que le Seigneur a dit à Timothée cette chose par la bouche de Paul. Garde en toi le bon dépôt de la foi. Garde en toi tout ce que la parole de Dieu a mis en toi. Et si la parole de Dieu a mis en toi toute cette parole, tu deviens une autorité au nom du Seigneur. Ta parole ne sera pas contestée. Tu rendras compte de ton espérance aux contradicteurs. Parce que la parole de Dieu vient en toi. Parce qu'il y aura toujours un verset approprié à sortir aux gens pour leur faire taire, leur claquer de rébellion et d'insoumission à Dieu. Soyez remplis de l'Esprit. Si nous ne connaissons pas toujours l'adversaire, lui, il nous connaît bien. Il sait si tu es rempli de l'Esprit ou si tu es rempli de toi-même. Il le sait. Il le sait. Te crains pas, il le sait. À l'heure du combat, il sait qu'il affaiblira notre offensive jusqu'à la rendre inopérante s'il a pu maintenir en nous ses poches de résistance qui s'appellent l'amour de soi, l'estime de soi, la sauvegarde et la mise en valeur de soi avec tous ces postes que peuvent contenir la compromission, la désobéissance, etc., etc. Il sait s'il y a des poches de résistance en nous vis-à-vis de Dieu. Lui-même les a créées en nous. Et au moment où tu vas t'embarquer à vouloir prier pour une personne. Attention, il le sait. Attention que dans l'Écriture, frères et sœurs, il y a des exemples que nous allons voir où il faudra bien faire attention de pas se lancer, n'est-ce pas, comme des cow-boys, à aller chasser les démons de partout. Et surtout là où il n'y en a pas. C'est pourquoi l'apôtre nous invite à revêtir toute l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Éphésiens 6, 11. La vérité est la première arme. Si tu veux délivrer les autres et que tu vis dans le mensonge, l'ennemi, il sait à qui tu appartiens. Parce que Dieu n'est pas le père du mensonge, n'est-ce pas? On est bien d'accord. La vérité est la première arme qu'il veut voir entre nos mains. Nous cacherions-nous à nous-mêmes nos faiblesses? Les démons, eux, les repéreraient et trouveraient à s'y agripper. La vérité est que Jésus est venu pour ôter le péché du monde et que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute notre iniquité. 1 Jean 1, 9. Deux paroles entendues dans la bouche des démoniaques corroborent cette vérité. La puissance à laquelle nous ne pouvons pas nous opposer, c'est l'humilité combattant l'orgueil. La pureté combattant l'impudicité, c'est le pardon combattant la rancune. Ça, on ne peut pas s'opposer. Soit l'humilité, soit l'orgueil. C'est pour ça qu'il est important, frères et sœurs. Si nous disons, je reprends un peu la première de Jean, au chapitre 1. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. Car le sang de Jésus ne purifie pas globalement tous les péchés, mais le sang de Jésus purifie chaque péché. C'est pour ça que la confession des péchés, elle est importante. Seigneur, nous avons péché contre toi. C'est globalisé. Non, non, non. Il y a besoin de la purification du sang de Jésus sur chaque péché, car Jésus est mort pour nos péchés, pour nos transgressions, pour nos iniquités, parce qu'il y a des différences notoires entre le péché et l'iniquité. L'iniquité, c'est la pratique d'un même péché. J'ai souvent cette image, n'est-ce pas, que je redis sans cesse, mais parce que c'est une belle image, une bonne image. Hein, c'est un cortège de limaces qui passe sur une partie du carrelage, et la limace, elle passe, la deuxième, elle passe, et puis elle laisse une trace derrière. Et pour ceux qui savent que les traces de limaces, on les quitte qu'avec la pierre ponce. Donc, c'est ce que fait le péché en nous. Il laisse des traces. Seul le sang de Jésus a la capacité d'effacer ces traces dans nos cœurs et de retirer à l'ennemi tous les droits qu'il a sur nos vies. Dimanche, Philippe citait ce passage des Colossiens dans sa prédication. Il disait « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a transférés ou traduits du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, qui nous a transportés, qui nous a transférés. » Il y a eu un transfert. Et tu ne passes pas des ténèbres à la lumière sans avoir de conséquences, frères et sœurs. Si je vous enferme pendant 10 jours dans cette salle, tout fermé dans le noir, dès que je vais vous mettre à la lumière, comme Paul sur le chemin de Damas, il a été ébloui et les écailles lui sont tombées des yeux. Est-ce qu'il voyait pas Paul? Il voyait. Il était fils d'Hébreu, de la tribu de Benjamin. Il avait une sagesse plus grande que tous les gens qui étaient de sa génération au niveau de la loi judaïque. Il avait fait ses études au pied de Gamaliel. On pourrait dire, c'est un super ministère 5 étoiles, Paul. Mes frères et sœurs, est-ce que c'était suffisant? Il fallait qu'il ait la révélation de Jésus-Christ. Et quand il plut à Dieu de révéler son Fils en moi, dans les Galates, il dit, alors les écailles lui sont tombées des yeux. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et combien de chrétiens ont besoin de voir les réalités du royaume de Dieu? Combien de chrétiens ont besoin que les écailles tombent de leurs yeux? Ils se confortent dans une foi religieuse, routinière. La puissance à laquelle nous ne pouvons pas nous opposer, c'est l'humilité combattant l'orgueil, la pureté combattant l'impudicité, c'est le pardon combattant la rancune. Ça, c'est le chemin de la sainteté. Première clé, la foi. Deuxième clé, le sang de Jésus. Troisième clé, une marche dans la sainteté. Voyez-vous, frères et sœurs, il faut faire très attention à la manière dont nous comprenons les Écritures. Si nous nous basons sur Marc 16, hein, tous ceux qui ont cru, qui ont été baptisés, n'est-ce pas, seront sauvés, et voici les signes qui accompagneront, ils chasseront les démons. Si on prend ça à la lettre, on commence à faire ce que dit ce verset-là, sans avoir le panoramique de toute la révélation biblique, on voit la catastrophe. Combien mus par leur orgueil, ont voulu, après avoir lu ce verset, se lancer dans ces choses, ils en ont récolté que du désastre. Combien de pasteurs, d'évangélistes, de docteurs, et j'en passe, et des meilleurs, qui, connaissant ces choses, et qui, regardant leur vie, n'ont pas eu le courage d'affronter leur propre vie à cause de leur ministère, aujourd'hui, ils sont mal. Comment pouvez-vous, en tant que pasteur, excusez-moi, je cite pas de pasteur, je donne pas de nom, parce que c'est des personnes qui sont dans la France. Pasteur qui, dans son assemblée, a marié avec 3 enfants, a reluqué une sœur, il a pris une sœur, il est parti avec, il est allé coucher, il est allé faire son bastringue, et puis il est revenu, et l'église encore l'a repris, et ensuite, à nouveau, il est reparti avec une autre sœur, et vous croyez que ce frère-là, il est en état de se présenter devant Dieu, ou même de chasser un démon? Il ferait pas mal de chercher du secours auprès de ses frères pour qu'il soit libéré de sa sexualité. Troisièmement, l'autorité. Quatrièmement, l'autorité. La foi, le sang de Jésus, la sainteté, maintenant l'autorité. Obliger quelqu'un à déloger n'est possible que si notre parole et l'ordre d'obtempérer laissent clairement entendre que nous avons mandat et pouvoir d'exécution. Nous sommes mandatés par le Seigneur et nous avons l'autorité du Seigneur pour pouvoir exécuter cette chose. Frères et sœurs, l'autorité nous vient de quoi? L'autorité nous vient de la parole de Dieu. Je vais m'expliquer. La parole de Dieu, c'est le dépôt de la foi qui va être transmis par le Saint-Esprit en nous. Et cette parole est une parole d'autorité comme Jésus l'a exercée dans la tentation dans le désert. Comment Jésus a fait échec à l'oppresseur dans le désert? Par quel moyen? Par un acte de puissance? Non. Par révélation? Non. Par vision? Non. Par kétive? Il est écrit. Il a fait échec à l'oppresseur par l'autorité qu'il détenait de la parole de Dieu, parce qu'il est la parole incarnée. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Qui était la parole? D'abord, Logos, le Christ, celui qui était au commencement de la Genèse. Pas au verset 2, quand Dieu dit, déjà, écoutez-moi bien, Jésus, on le voit pas dans la Genèse. Si, on va dire, Dieu dit, donc c'est la parole qui est manifestée, et la chose se crée. Mais Jésus était dans le commencement, dans le mot commencement, au commencement. Dans le commencement était Jésus, parce que dans le mot commencement, il y a le mot du Seigneur. Vous vous rappelez, Bereshit? Bar, le fils, créa. Bar. Alors on s'est demandé pourquoi, puisque Jésus est l'alpha et l'oméga, puisqu'il est l'aleph et le tav, pourquoi on le voit pas au premier verset de la Genèse? Eh bien moi je vous dis qu'il faut avoir les yeux de l'esprit pour le discerner. Parce qu'il y est. Dans le premier mot, il y est. Il est bien l'alpha, il est bien l'oméga. Il est dans le premier mot. Il est dans les deux premières lettres du mot. Bereshit Bach, fils, il est là. Que son nom soit béni. Alors vous comprenez que le diable, il peut venir le tenter, hein. Kétive. Et puis tu peux venir aussi tenter les gens, hein, n'est-ce pas, avec des doctrines mensongères, en leur inculquant des moitiés de versets bibliques pour les attraper. Quand on sort un verset de son contexte pour en faire un prétexte, on tronçonne les versets, mais on oublie de dire le reste. L'autorité lui donne le pouvoir, parce qu'il a reçu le mandat du Père. Mais Jésus n'a pas voulu se battre avec le diable sur le terrain de la puissance, sur le terrain de l'humilité. Il est resté soumis à la parole de son Père. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il n'a pas cherché des choses extraordinaires. Il est resté sur le terreau de la parole de son Père. Nous devons préciser que pour l'adversaire, nos titres ecclésiastiques, notre stature, où notre volume de voix n'ont rien d'impératif devant lui, il s'en fout totalement. Tu peux être costaud de 2 mètres, 110 kilos, avec une voix comme un centaure, tu peux dire au nom de Jésus et faire trembler les poteaux de cette salle, lui bougera pas. S'il n'a pas discerné en toi que tu as l'autorité du Seigneur, tu peux toujours courir, mon pauvre. Tu vas rester toute la nuit pendant des mois et tu feras rien du tout. Si, tu vas t'épuiser. Ou alors, il pourrait que les esprits se tournent vers toi en te disant, nous connaissons Paul, mais toi et vous, je ne vous connais pas. Et puis tu sors battu, tu sors nu, blessé, parce que les démons se retournent contre toi et t'agressent. S'ils ne reconnaissent pas en toi l'autorité du Seigneur, ils vont t'agresser. Alors bien sûr, ne va pas délivrer les gens avec une équipe où tu vois des chrétiens venir avec la cigarette au bec, au nom de Jésus. L'ennemi est trompeur et ne se laisse pas lui-même abuser. On va le lire, tiens. Écoutez bien ça. Acte 19. Versets 13 à 17. On va à partir du verset 13, comme ça, ça sera plus clair. Acte 19, à partir du verset 13, du verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, de sorte que même on portait de dessus son corps des mouchoirs et des tabliers sur les infirmes, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Mais quelques-uns aussi des juifs exorcistes qui couraient ça et là, essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits malins, disant « Je vous adjure par Jésus que Paul prêche. » Et il y avait là sept fils de Sceva, juifs, principal sacrificateur qui faisait cela. Tiens, des fils de pasteurs. Mais l'esprit malin répondant leur dit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme en qui était l'esprit malin s'élança sur eux et s'étant rendu maître des deux, usa de violence contre eux, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Autant il est vrai que la puissance d'action d'une personne peut s'exprimer par son nom, autant va de soi que prononcer le nom de Jésus, c'est tout simplement faire du bruit inutile si l'Esprit Saint ne ratifie pas au travers de nous et en accord avec nous l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, tu peux faire ce que tu veux. Mon frère, ma sœur, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas au-devant d'un échec notoire. Même, je vais te dire une chose, pour ton bien, fais attention, les choses de l'Écriture ne sont pas des gadgets spirituels. Ne fais pas ces choses-là si tu n'es pas affermi dans ta foi, dans ta conviction que le sang de Jésus t'a vraiment purifié, que tu marches dans une vie de sainteté et que l'autorité de la parole demeure en toi. Parce que qu'est-ce qui peut se passer ? C'est que si toi tu fais le faiseur de miracles, tu veux faire ces choses-là et que tu veux provoquer les démons, fais attention à ta famille, fais attention à tes enfants. Fais attention à ta vie, à ton épouse. Parce que si l'autorité est en toi, le diable saura. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de poste de résistance en toi. Il sait que en toi, le Seigneur règne. Ta nature charnelle, elle est encore d'accord. Mais avec le péché, tu en as fini. Il est dit, celui qui demeure dans le Fils ne pêche pas, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous avez compris ? Il se garde lui-même. Nous avons notre part à faire. C'est ce qu'en d'autres termes Jésus expliquait aux disciples, indignés de voir à l'œuvre au nom du Seigneur un homme qui chassait les démons et n'était pas du groupe des 12. Jésus leur dit, ne l'empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt parler mal de moi. Marc 9, 39. Interpellez l'adversaire au nom du Seigneur, c'est confesser la messianité de Christ. Interpeller l'adversaire au nom du Seigneur, c'est confesser qu'il est le Messie. C'est mener une action avec son approbation, c'est-à-dire en présence, en sa présence, avec son aide, assurée par le Saint-Esprit. Depuis l'ascension, Jésus est Seigneur et l'ennemi le sait bien. Lui et les conséquences des paroles du Christ glorifié, rapporté par Matthieu. Oui, l'ennemi sait ce que Jésus a dit dans Matthieu 28. Il sait très bien cette chose. Versets 19 à 20, le dernier chapitre de Matthieu. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Amen. Amen. Il sait ces choses. L'ennemi le sait. C'est pour ça que être rempli de la parole, je dis pas être rempli de la connaissance de la parole, mais être rempli de la parole pour, par amour pour la parole et par la révélation du Saint-Esprit, tu es une arme efficace entre les mains de Dieu. Je dis pas parole enseignée, je dis parole révélée. Car c'est l'onction qui demeure sur nous, qui enseigne toute chose. C'est l'onction de Dieu. Donc ce soir, nous arrêtons sur ce chapitre de l'autorité. Il nous restera encore trois sujets à voir. C'est le glaive de l'esprit, la prière et le don des discernements des esprits. Nous terminerons cela mardi prochain, si Dieu le permet. Mais rappelez-vous, il y a sept clés essentielles pour ceux qui exercent, les frères et sœurs qui exercent le service de délivrance, de libération. Sept clés qui sont vitales pour que la libération soit effective. La foi, le sang de Jésus, la sainteté, l'autorité, le glaive de l'esprit, la prière et le don des discernements des esprits. Amen.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.